vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. Le dispositif spécial consacré aux élections municipales sur Oxygène se poursuit. Après la ville de Montereau, où nous étions mardi soir, celle de Nemours hier, nous sommes donc à Moret-sur-Loing ce soir avec les deux candidats qui se présentent à Moret-sur-Loing et qui ont accepté de répondre à notre invitation. Nous allons commencer par les saluts, à commencer par le maire sortant, monsieur Septier, Patrick Septier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis la liste emmenée également par James Chéron. James Chéron, bonsoir.
Bonsoir.
Merci
et bonsoir aux auditeurs.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors messieurs, cette émission va se passer de façon assez simple. On va parler du bilan de la municipalité, on parlera de vos mesures, on parlera de vos programmes. Vous allez être aussi interpellé par un certain nombre de Moretiens et ça sera donc dans le courant de cette émission. Et puis en fin d'émission, questions qui fâchent et petit quiz consacré à Moret-sur-Loing. Premier sujet maintenant, la municipalité sortante. On va laisser l'honneur, je dirais, au maire sortant, monsieur Septier, pour donc la liste Moret d'abord, de dresser votre bilan en quelques mots. Je vous invite à parler de ce qui est sorti de terre éventuellement et puis on parlera ensuite de ce que vous prévoyez pour l'avenir. Donc là on s'attache à votre bilan. Quel bilan dressez-vous de cette mandature?
Alors le bilan, je le considère par rapport aux engagements pris. Bon, puisqu'il y a, en 2001 il y a eu une campagne, il y a eu des engagements qui ont été pris, sur lesquels la liste a été élue. Et donc ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que ce qui a été promis a été réalisé.
Comme?
Eh bien, comme par exemple tout ce qui est culture, les rénovations du patrimoine, la création d'un nouveau tennis, les entretiens de voirie, la construction de l'école, le terrain de football en stabilisé, et puis au niveau intercommunal, c'est le développement des crèches, c'est le développement économique, le centre social. Donc voilà, il y a eu ce qui a été promis a été tenu, et nous avons fait même davantage. Alors ça, c'est un premier point. Et ce qui est aussi,
qu'est-ce que vous
pour moi,
par avantage, qu'est-ce que vous avez fait davantage justement, qui n'était pas promis à la base.
Alors c'est comme par exemple un nouvel hôtel d'entreprise, c'est un pôle famille pour les familles bien évidemment, les adultes, les adolescents, un service action jeune. Vous voyez, ce genre de choses qui n'avaient pas été promis et qui a été également réalisé. Et ce qui est important également dans le bilan, c'est le consensus qui s'est dégagé par rapport aux décisions prises, puisque la dernière fois, il y avait également deux listes, et que 95% des décisions du conseil municipal sont prises à l'unanimité. Ce qui veut bien dire que ce qui a été proposé, eh bien, correspond à l'intérêt général de la population. Et je pense que c'est important dans une ville d'arriver à dégager un consensus pour satisfaire la plus grande partie des habitants.
Voilà pour votre bilan. James Chéron, pour donc la liste Rupture, Ouverture et Rassemblement à Moret-sur-Loing, dressez-vous le même bilan? J'imagine que non.
Évidemment non, sinon je ne serais pas à la tête d'une liste et d'une équipe qui propose une alternative aujourd'hui. Nous considérons pour notre part que ces 6 années ont été 6 années de perdues. Les gros dossiers n'ont pas avancé, la ville ronronne.
Quel gros dossier en particulier?
Quel gros dossier? Le dossier du stationnement à la gare. Il manque des places en crèche pour les enfants. Le patrimoine, on parle de rénovation du patrimoine, qu'est-ce qui a avancé? L'école centrale est dans un état lamentable, il n'y a plus de toit, ce sont des bâches, depuis des années, rien n'a avancé. La maison Clémenceau, le moulin Provencher, qu'on a acquis, qu'on a depuis des années, on n'en a rien fait, on ne l'a pas entretenu. Ça se détériore, on ne sait pas quoi en faire d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on nous dit qu'on va demander au département et à la région ce que eux pensent pouvoir en faire. Je ne considère pas que c'est à Jean-Paul Huchon et au conseil régional de décider ce qu'on va faire de l'école centrale ou de la façade François 1er. On doit évidemment aller les chercher en tant que partenaire pour financer les projets que nous menons, mais c'est pas au président de la région de nous dire ce qu'on a à faire de l'école centrale par exemple.
Alors un sujet comme, avant que vous poursuiviez, vous allez répondre notamment sur le parking de la gare, c'est un gros dossier, on en parlera tout à l'heure avec les auditeurs.
Et même sur le reste.
Oui, je vous donnerai la parole après.
D'abord, le moulin Provencher n'a pas été acheté il y a des années, puisqu'il a été acheté il y a quelques mois.
C'est un exemple.
C'est un premier point. Deuxième point, si on veut faire des projets pour l'avenir, il faut bien évidemment avoir du patrimoine. Puisque nous souhaitons utiliser ces bâtiments à des fins culturelles et touristiques, donc il ne faut pas les laisser partir, puisque sur le territoire de Moret, il n'y a pas de terrain. Donc si nous n'avons pas d'immobilier, nous ne pourrons pas faire de projet. Donc c'était une sagesse, qui avait été prévue d'ailleurs dans le plan d'occupation des sols, d'acquérir ces biens et qu'ils soient dans le domaine communal. Alors une étude a été commanditée et va être réalisée en coopération avec la région, le département, et la commune. Donc c'est pas la région qui va décider ce qu'elle va faire. C'est une étude qui est financée par la région et le département. Mais c'est la commune qui en est la maître d'œuvre. Et c'est la commune qui décidera ce qu'elle fera. Donc je peux pas laisser dire que c'est la région qui va décider ce qui va être fait dans Moret. C'est vraiment une aberration.
Depuis combien de temps la commune est-elle propriétaire de l'école centrale?
Oui.
Alors, depuis combien de temps n'a-t-on rien réfléchi? Les fenêtres sont cassées, pigeons.
Oui.
C'est une ruine aujourd'hui l'école centrale.
Il y a eu des études qui ont été menées qui n'ont pas abouti, ce qui est le propre d'un certain nombre d'études. Aujourd'hui, elle est occupée en partie par des ateliers d'artistes. Vous pouvez pas dire le contraire. Et quand j'entends dire que c'est un mauvais placement, il faut savoir que ça a été acheté à l'époque 80 millions.
Personne ne remet en cause le placement.
Ça a été acheté 800 000 francs et aujourd'hui ça en vaut 5 ou 6 fois plus. Donc il ne faut pas me dire que c'était un mauvais investissement, même si je reconnais à l'époque.
Personne ne dit que c'était un mauvais investissement.
Puisque dans les tracts on dit que je gaspille l'argent public en achetant des biens immobiliers. Donc c'est pas du tout le cas. Comme le Moulin Provencher, c'est la plus belle maison de Moret que les Morais ne connaissent pas et qui va avoir, d'ailleurs on l'a vu à la journée du patrimoine, où il y a 2000 personnes qui sont venues en 2 jours. Donc c'est un attrait touristique incontestable, sur le loin, avec une passerelle formidable dans laquelle on a des points de vue que même les Morétains les plus anciens, comme moi, n'avaient jamais vus. Donc je veux dire, c'est un atout touristique et culturel qui va donner une valeur formidable à notre centre-ville. Alors bien évidemment, il faut réfléchir, et il faut réfléchir avec les financeurs, avec la région, avec les départements, pour savoir comment on peut les utiliser. Mais il y a l'opportunité. Si on ne l'achète pas aujourd'hui, ça va être acheté par un propriétaire privé et ça ne sera revendu que dans 50 ans. Si nos anciens avaient fait le même raisonnement, eh bien la mairie n'aurait jamais été achetée. Puisque c'est moi qui ai terminé les travaux de la mairie il y a une dizaine d'années alors qu'elle a été achetée il y a 45 ans.
Alors, on va revenir.
Je pense qu'il faut avoir une vision de l'avenir. Et si on veut faire un développement culturel et touristique, ça ne peut se faire qu'en acquérant des bâtiments stratégiques dans la ville.
On en parlera dans les projets tout à l'heure. Vous avez un petit peu d'avance sur le temps de parole, Monsieur Septier. James Ferron, d'autres choses concernant le bilan, si vous le voulez, on capitalise le temps de parole pour plus tard, comme vous voulez.
Je crois que ce discours n'est pas crédible. Le Moulin Provencher, effectivement, a été acheté il y a peu de temps, 750 000 euros, approximativement, si vous confirmez, 750 000 euros. Une maison qui est sur un... dans un cadre exceptionnel et magnifique, une maison qui, par contre, n'a aucun intérêt ni historique, ni patrimonial, ni architectural. 750 000 euros, c'est, par exemple, 2 fois le montant pour construire la passerelle dont on nous parle depuis 20 ans pour relier les deux rives. Voilà. L'école centrale, c'est une question de choix.
C'est une question de choix.
Je pense que ce choix-là est mauvais. L'école centrale, ça ne fait pas quelques mois ou quelques années. Ça fait de très nombreuses années qu'elle est propriété de la commune. Personne n'a dit que ça avait été une mauvaise chose de l'acheter. Par contre, elle a été achetée dans un état correct et décent, alors qu'aujourd'hui... Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez.
Je vous donne la parole après.
Il faut aussi garder son sang-froid dans ce genre de débat.
On y va.
L'école centrale, depuis des années, est laissée à l'abandon. Il y a des bâches qu'on change trop peu souvent, qui laissent infiltrer l'eau, l'humidité, etc. Les fenêtres sont cassées, c'est envahi par les pigeons. Heureusement qu'il y a des bénévoles.
Depuis combien de temps elle est dans cette, selon vous, dans cet état?
Elle n'a jamais été entretenue.
D'accord.
Voilà. La tempête de 99 a emporté une partie du toit et rien n'a été fait depuis. Heureusement qu'il y a des bénévoles, et je pense à la Société de l'archéologie de Saint-Mamé, et à Claude Clément Perrault, qui font ce qu'elles peuvent, qui font des fouilles, qui ont dégagé les caves, qui sont visitées, qui sont appréciées, qui sont très jolies. Voilà. Mais c'est une question de choix. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer cet écart sur les choix. Derrière la mairie a été inaugurée au mois de octobre, à l'automne dernier en tout cas, la grange aux enfants. La grange aux enfants, c'est une grange qui a été achetée par la mairie, et qui a été rénovée. Le tout pour un total de 900 000 euros entre l'achat et les travaux, je crois, 600 et 300, grosso modo. Cette maison abrite les services, le service petite enfance. Alors, je considère qu'il faut effectivement prendre garde aux bonnes conditions de travail des employés municipaux ou communautaires, en l'occurrence. Par contre, alors que l'on manque de places en crèche pour les jeunes, il me semble que ces 900 000 euros auraient largement pu contribuer à construire une nouvelle crèche, comme nous le proposons, nous en reviendrons plus tard si vous le souhaitez, à proximité de la gare. Ça nous paraît logique pour les familles, nous les parents qui vont travailler à Paris. C'est considéré aujourd'hui par l'équipe sortante comme un projet saugrenu, c'est une question de choix. Il me semble important de répondre aux attentes des Morétains, Aujourd'hui, la politique en place manque de proximité.
Patrick Sépier pour la liste Moret d'abord. Une réponse peut-être sur l'école dont James Chéron faisait écho. Et puis ensuite, les autres.
La maison dite de l'école centrale, elle était déjà achetée, elle n'était pas en bon état, déjà. Donc, une grande partie des... bien évidemment, mais elle était déjà dans un mauvais état. En plus, donc, il y a eu des fouilles qui ont été faites à la demande de la commune par le groupe archéologique, qui a permis de mettre en place une cave qui est extrêmement visitée, qui est une des caves les plus anciennes de la ville. Voilà. Très bien. En ce qui concerne la crèche, je dirais que d'abord que la crèche, c'est une réalisation de la communauté de communes. Donc, c'est pas Moret seul qui peut décider.
Vous nous habituez à tellement mélanger les différentes structures.
C'est vous qui mélangez là. Puisque vous dites que la crèche, c'est un choix de la municipalité. Peut-être personnel communautaire, vous avez dit que c'était un choix du maire. Donc c'est pas
vous
le maire. C'est vous qui faites le mélange, c'est pas moi. Donc je dis que la crèche est un équipement communautaire, donc dans laquelle la commune a son mot à dire, bien évidemment, mais qu'elle n'est pas seule décisionnaire, hein, puisque c'est le conseil communautaire des 12 communes. Première remarque. Deuxième remarque, le fait d'avoir réhabilité ce bâtiment... n'a pas amputé le nombre de places, puisque les services étaient logés dans un endroit qui ne permet...
Le choix aurait pu être d'investir pour rendre service au Moret.
Laissez-moi terminer. On a transféré du personnel dans un autre bâtiment pour ouvrir justement d'autres places dans la halte garderie. Donc en fin de compte, l'opération a permis deux choses, de mieux loger le personnel qui n'était pas logé dans des conditions normales, parce qu'il faut savoir quand même qu'au niveau des haltes garderies et des crèches, nous gérons 500 enfants. C'est la structure la plus importante du sud de Seine-et-Marne. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas de crèche, il faut quand même relativiser les choses.
Qu'il n'en a pas assez.
Premièrement. Deuxièmement, ça a permis d'ouvrir des places supplémentaires en halte garderie. Et troisièmement, de faire une salle en rez-de-chaussée pour accueillir les formations des assistantes maternelles et en particulier de garder les enfants des assistantes maternelles quand celles-ci sont en formation. Donc c'était absolument indispensable pour que nos crèches familiales puissent fonctionner. Donc c'est pas du tout de l'argent comme ça. On ne pouvait pas faire autrement. C'était réglementaire. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi.
Alors on parlera de vos projets après.
Pour finir
rapidement
sur ce sujet, la halte garderie, les parents peuvent y accéder deux demi-journées par semaine en réservant une semaine à l'avance.
Alors c'est pareil, c'est un problème communautaire. Mais la halte garderie qui se situe à Moret est ouverte tous les jours. Et nous avons en plus ouvert des matinées à jouer dans les autres communes de la communauté de communes, en particulier à Champagne, à Vernoux, à Saint-Mamet, ce qui permet justement de libérer des places pour les parents morétains, puisque avant tout était concentré à Moret. Donc nous jouons la proximité au niveau de la communauté de communes, nous mettons les services dans les communes.
Que l'halte garderie soit ouverte tous les jours, oui, mais ce qui compte, c'est quand même le service rendu aux gens. Pas l'ouverture du service. Les parents n'y ont accès.
Non, mais attendez, quand la halte garderie est ouverte, les enfants sont gardés. Donc si les enfants sont gardés, c'est bien que ça rend service aux parents. On va pas ouvrir une halte garderie, on va pas mettre du personnel en ouvrant la halte garderie sans accueillir les enfants.
Un enfant ne peut être accueilli que deux demi-journées par semaine. Ça ne suffit pas pour des parents qui vont travailler, eux, tous les jours.
On en parlera tout à l'heure dans vos projets. Est-ce que c'est un projet amélioré ou pas? Est-ce qu'il y a lieu de l'améliorer? On en discutera tout à l'heure. Je vous propose d'écouter la question d'un professionnel, un chef d'entreprise de Moret-sur-Loing qui vous pose une question très pratique. Écoutez.
Bonjour, je suis chef d'entreprise à Moret-sur-Loing. La taxe de stationnement actuellement pour la création de commerces nouveaux est d'environ 6 000 € par place et il faut au minimum 2 places, soit 12 000 € en cas de défaut de place dans sa propriété foncière. Cette taxe lourde bloque toute création de nouveaux commerces et donc le développement économique. La valeur de cette taxe est votée par le conseil municipal. Que comptez-vous faire?
Alors, retour sur cette taxe. Lorsque l'on ouvre un commerce, doit-on, oui ou non, s'acquitter de cette taxe?
Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation de cette personne. Cette taxe est votée quand, par exemple, vous créez un nouveau logement. Alors, c'est le problème, il est surtout en centre-ville, vous créez un logement.
Alors, prenons l'exemple d'une entreprise,
c'est pas un problème d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une maison, vous faites deux logements à l'intérieur. Donc vous devez absolument, au niveau du poste et de la réglementation, offrir des places de stationnement. Alors soit vous pouvez les faire sur la parcelle,
d'accord.
Donc il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas les faire sur la parcelle, il est possible d'avoir une dérogation en acquittant un droit. Voilà, c'est tout.
Et c'est le fameux droit dont parle l'auditeur.
Mais ce n'est pas un droit lié au commerce, c'est un droit lié à l'urbanisme et à toute transformation d'une maison, enfin à toute création d'habitation.
Voilà. D'accord. Si sur la parcelle, on ne peut pas créer sa place de parking,
ça, c'est
mais,
la
en,
loi, hein.
mais en centre-ville, on fait quoi? Parce que le monsieur disait, en centre-ville, ça freine le développement en centre-ville. Parce que oui, en centre-ville, si on achète,
si on
transforme...
Si vous faites un commerce, il n'y a pas de problème.
Si vous... vous ne devez pas vous acquitter de cette taxe.
Je parle de logement.
Alors, le commerce n'a pas à s'acquitter de ça, non. C'est si jamais on transforme...
Si on crée un logement, c'est ce que je viens d'expliquer, dans une maison, il y a un logement, vous en faites deux, ben, il faut avoir des places de stationnement. Soit vous les pouvez les faire sur la parcelle, il n'y a pas de problème, soit vous ne pouvez pas, vous
êtes... Donc ça ne concerne pas le commerce, donc cet auditeur n'était pas dans la bonne formule.
Il n'y a pas de droit spécifique au commerce.
James Chéron, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
En fait, cette question ramène quand même sur le problème du stationnement dans le centre-ville, qui lui est bien réel. Puisqu'on a deux rues commerçantes, la rue Grande et la rue de l'Église, sur lesquelles il y a des zones bleues qui ne sont absolument pas respectées. La place Samois, alors dont certains voudraient qu'elle passe en zone bleue, dont la municipalité avait étudié le passage en stationnement payant, ce à quoi nous nous opposons. Nous avons un engagement ferme sur un stationnement qui reste gratuit sur tout le territoire de la commune.
Gratuit et limité ou gratuit ? Gratuit est limité à un certain minutage ou gratuit tout court?
Alors, gratuit, on est sur deux sujets différents. Gratuit tout court, c'est-à-dire gratuit, mm-hmm. on ne paye pas. Deuxièmement, un stationnement limité dans le centre-ville, ça c'est certain. On a besoin d'avoir un turnover, d'éviter les voitures ventouses. Et on a besoin, par contre, d'augmenter le nombre de places de stationnement. Puisque les voitures aujourd'hui qui ventousent les places en zone bleue, il faut quand même les mettre quelque part. Plusieurs mesures, on en reviendra si vous le souhaitez
tout à l'heure. Après,
voilà,
tout à
plusieurs
fait,
mesures
ouais.
que nous proposons en tout cas, des mesures qui permettent, un, de limiter le nombre de véhicules et les flux en centre-ville, deux, des mesures pour augmenter le nombre de places de stationnement qui permettent enfin de respirer et d'avoir un peu plus d'oxygène, je crois que c'est un terme qu'on peut utiliser à votre antenne, en centre-ville.
Voilà. D'accord, on parlera de vos projets après.
Je voudrais revenir sur le problème de la place de Samois.
Alors rapidement.
Stationnement.
Mmh.
Parce que il y a eu une réunion des commerçants, dont un certain nombre aujourd'hui se trouve sur la liste de M. Chéron, qui m'ont demandé de faire payer, d'installer le stationnement payant à la place de Samois. Voilà. Et ce que je veux dire, aujourd'hui, on est sur des opinions inverses.
D'accord.
C'est simplement pour dire qu'on peut changer d'idée, bien évidemment. Mais bon, c'est toujours un petit peu gênant d'avoir fait faire des études et puis engager des coûts par une municipalité et après dire qu'en fin de compte, eh ben non, on n'est plus d'accord. Donc c'est toujours un petit problème.
C'est aussi
en ce qui concerne
la municipalité à ramener les citoyens et les demandeurs à une raisonnabilité. Je n'imagine pas une commune comme Moret-sur-Loing prendre en régie directe un stationnement payant. Et je n'imagine pas non plus une grande entreprise type Vinci, Eiffage, être intéressée par une place sur laquelle on aurait 30 places de stationnement payant.
On parlera de vos programmes, si vous le voulez bien, juste après la petite pause musicale. Et d'autres questions d'auditeurs également sur Oxygène. On est à Moret-sur-Loing ce soir, donc, avec les deux candidats qui se présentent pour ce premier tour des élections municipales. Il n'y aura d'ailleurs qu'un tour. Patrick Septier, maire sortant, liste Moret d'abord. Et puis James Chéron, liste Rupture, Ouverture et Rassemblement à Moret-sur-Loing. Vous êtes sur Oxygène, ne changez rien.
Les municipales 2008, à vivre uniquement sur Oxygène.
Dispositif exceptionnel à l'occasion des élections municipales sur Oxygène avec des débats et puis également une grande émission dimanche soir, 19h, ne la manquez pas. Nous prendrons l'antenne à 19h avec déjà des premiers résultats. Je pense notamment à Montreux, équipé de systèmes électroniques. Donc ça va aller un petit peu plus vite du côté de Montreux. Il faudra attendre un petit peu plus tard pour les autres communes. Nous vous donnerons les résultats du premier tour, commune par commune, dans le sud de Seine-et-Marne. Soyez donc là à 19h avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et puis nos deux animateurs en plateau, Arnaud Pichet, Gaël Martin, qui seront là pour vous faire vivre également la tendance nationale et puis les cantonales. Bref, grande soirée électorale, 19h. Pour l'instant, jusqu'à 19h ce soir, nous nous intéressons à la commune de Moret-sur-Loing avec les deux listes concurrentes. Une liste Moret d'abord, emmenée par Patrick Septier, le maire sortant de Moret-sur-Loing. Et puis la liste Rupture, Ouverture et Rassemblement à Moret-sur-Loing, emmenée par James Chéron. Alors on a dressé un bilan animé, je serais tenté de dire, de la mandature du maire sortant. On va maintenant parler des projets. On va commencer avec vous, monsieur Septier, pour la liste Moret d'abord. Quelles sont, si on pouvait dégager, deux à trois grosses mesures de votre prochaine mandature? Qu'est-ce que vous promettez aux gens qui vont voter pour vous ce soir? Qu'avez-vous à nous présenter pour ces deux, trois idées globales?
Je ne veux pas que les promettre, puisque comme la dernière fois, je les promets, mais je les tiendrai. Puisque ça me paraît le minimum des choses quand on s'engage, c'est de respecter, de présenter un programme qui soit réaliste en particulier financièrement, et qui corresponde à l'intérêt général. Donc c'est pas un programme de promesses démagogiques, c'est simplement un programme que nous sommes certains de tenir. Alors, il comporte déjà la rénovation de la voirie, poursuivre la rénovation de la voirie. 85% des rues ont été rénovées, donc l'objectif c'est de terminer les 15% suivants. Et puis de terminer, alors il y a un parking qui est fait par la communauté de communes de 140 places, donc qui s'achève, qui fait que nous allons refaire toute la route de Saint-Mamet. Nous sommes déjà en train d'enfouir les réseaux et de la sécuriser, nous allons la sécuriser, planter des massifs, etc., comme nous avons fait le long de l'avenue Jean Jaurès. Nous allons créer une quarantaine de places de parking sur la place de Kulsheim, avec un aménagement paysager, jeux d'enfants. Revoir un certain nombre de petits points dans la circulation.
Comme l'installation, une installation particulière, à quoi les gens doivent s'attendre?
Non, surtout sur des problèmes pour limiter la sécurité. Enfin, limiter la vitesse, augmenter la sécurité. Hein. Alors là, nous avons mis en place un certain nombre de systèmes, en particulier des coussins berlinois. Nous avons lancé une enquête pour évaluer l'intérêt de la chose.
Alors le coussin berlinois, rappelez-nous le principe parce que je vois pas.
C'est des petites placettes traversantes, si
d'accord,
vous voulez,
hein,
mais amovibles.
Voilà,
donc qui a l'intérêt, parce que tout le monde réclame des ralentisseurs, mais personne ne veut les avoir devant chez soi. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut les démonter. Voilà, ça c'est un intérêt important. Donc nous avons fait l'expérience dans deux rues, et en fonction de, nous avons envoyé un questionnaire maintenant aux riverains pour savoir s'ils jugent que c'est efficace, pas efficace, si ça crée des nuisances ou pas, et en fonction de ça, on généralisera. Et puis il y a le patrimoine, rénovation du patrimoine, donc c'est la poursuite de la rénovation de l'église, hein, qui est en cours. Il y a l'escalier royal qui est prévu également, et la restauration de la façade François Ier, dont l'étude vient d'être terminée. Et puis un grand projet au niveau culturel, c'est la création d'une médiathèque, hein, donc qui va être intégrée justement dans l'étude dont nous parlions tout à l'heure avec le département et la région. C'est proposé justement qu'il y ait une médiathèque d'un rayonnement sud-Seine-et-Marnais, implanté justement dans le bâtiment que M. Chéron voit en ruine, dans l'ancienne école centrale.
Combien de références ont cette médiathèque pour qu'on ait une idée déjà de ce qu'on va voir à l'intérieur pour qu'elle rayonne Sud-Seine-et-Marne? C'est quelque chose d'important.
L'idée, c'est de la proposer dans l'étude, justement. Donc, il y a une étude qui est faite, justement, pour réfléchir à ce genre de choses.
D'accord.
Et puis, au niveau du sport, donc, c'est terminer l'espace rue de la Saussaie. Puisque comme nous avons fait des ateliers communaux nouveaux, nous avons pu libérer un certain nombre de bâtiments intégrés entre le tennis et le football, qui va permettre de réfléchir à ce que l'on va faire de cette bâtisse que nous avons pu récupérer, qui abritait les jardiniers. Donc on va réfléchir avec les sportifs, mais l'idée c'est d'aménager, de terminer complètement ce complexe sportif avec la dernière opération qui nous reste, la rénovation des vestiaires, et puis l'utilisation de cet espace qui reste.
Voilà donc.
Et je terminerai en disant que nous nous engageons, comme je l'avais fait dans les années 90-92, à lancer une grande réflexion sur la ville.
Oui.
Parce que on ne peut pas avoir de perspective à court terme, il faut avoir une perspective à moyen ou long terme. Donc l'idée, c'est de lancer une grande étude de réflexion qui associera bien sûr tous les acteurs de la ville et tous les habitants pour pouvoir programmer ce que nous voulons faire de Moret dans 15 ans. Parce que si nous voulons avoir des subventions, une programmation, eh bien il faut y réfléchir. Et je pense qu'en associant les habitants à la réflexion, eh bien ils s'approprient le projet, ils s'approprient leur ville. Et je pense que c'est extrêmement important. Nous l'avions fait il y a une dizaine d'années et on propose de recommencer pour... avoir une vision d'avenir sur Moret-sur-Loing.
Voilà donc pour les propositions de la liste Moret d'abord, emmenée par Patrick Septier, le maire sortant. James Chéron, liste rupture ouverture, et rassemblement à Moret-sur-Loing. Quelles sont vos différentes propositions dans les grandes lignes?
Alors dans les grandes lignes, des propositions sur le comment faire et sur le quoi faire. Une première proposition, un premier projet sur une modification du comment faire. Nous voulons remettre de la proximité dans la gestion municipale, du dynamisme dans la gestion des dossiers, pour que on ne fasse pas que réfléchir. On nous parle encore là de réfléchir sur ce qu'on va faire de Moret dans 15 ans. Évidemment, il faut réfléchir sur ce qu'on va faire de Moret dans 15 ans. Mais quand on est aux affaires...
Donc vous êtes bien d'accord qu'il faut bien lancer une étude pour réfléchir ce qu'on va faire dans 15 ans.
Quand on est aux affaires depuis 20 ans, les 15 ans sont déjà finis, écoulés.
On a fait une étude qui a permis de réaliser ce qui est fait aujourd'hui. Et on recommence pour les 15 ans à venir.
On a bien compris. Une étude qui est menée et qui sera remenée à nouveau.
Je laisse aux Moretins le bon soin de regarder autour d'eux ce qui a été fait depuis 20 ans effectivement dans leur villa. Donc remettre de la proximité, je tenais une réunion publique hier, salle des fêtes, 140 personnes, dont une dizaine d'amis de M. Septier, donc on va dire 130 curieux, Nous sommes livrés, après la présentation de notre programme, à une séance de questions-réponses qui a duré plus d'une heure et demie, au cours de laquelle nous nous sommes rendus compte, confirmation de ce que nous vivons au jour le jour au cours du porte-à-porte, nous sommes rendus compte que les gens sont venus nous exposer des problèmes que normalement ils devraient exposer à leur maire ou à leurs adjoints au cours de permanence, au cours de réunions de quartier, des problèmes sur des concessions dans le cimetière.
Mais je peux répondre des concessions dans les cimetières parce que je connais bien la personne, je suis même allé la voir chez elle deux fois. Et le problème est en cours d'être réglé, mais il n'est pas facile à régler.
Fait du cas par cas.
Mais je peux répondre parce que je suis allé la voir chez elle deux fois.
Voilà. Alors les autres thèmes.
Je dis simplement, les gens sont venus nous parler des fois de choses qui étaient un petit peu décalées par rapport à l'objet de la réunion, qui était la présentation de notre programme, et qui étaient leurs problèmes du quotidien.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Ça signifie qu'ils n'ont pas aujourd'hui, ils n'estiment pas avoir, et ils n'ont pas l'écoute nécessaire de la part de leurs élus. On va prendre l'exemple dont on a beaucoup parlé hier. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier du Larry. Le quartier du Larry, c'est une dizaine d'habitants. Qu'est-ce qui a été fait depuis 30 ans dans ce quartier ? On a goudronné la route. C'est tout. Il n'y a pas tout à l'égout. Je vous parle pas du gaz de ville. L'enlèvement des monstres, c'est quand on y pense. Et quand le quartier est oublié, on dit on repassera dans 3 mois. Les conditions d'accès et l'environnement est absolument lamentable. On laisse vivre des gens dans des conditions indécentes. Voilà, aucune proximité, aucun élu ne va jamais là-bas.
Donc première grande mesure, la proximité.
Première grande mesure, un changement dans le comment faire. La proximité, le dynamisme dans la gestion des projets pour qu'on réfléchisse mais on agisse également. Et la concertation et le partenariat. On voit aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans le budget, qu'il n'y a pas d'investissement. On a passé un mandat sans investissement. Les impôts sont très élevés par rapport à la moyenne des villes de la même strate. L'endettement est très élevé par rapport à la moyenne des villes de la même strate. Heureusement que nous avons des dotations de l'État supérieures à la moyenne des villes de la même strate. Merci à l'État. Mais on voit qu'il n'y a pas d'investissement. Il suffit de regarder la ligne FCTVA. La FCTVA, c'est la récupération que l'on fait à N+2 de la TVA par rapport aux investissements. FCTVA est extrêmement faible. On n'investit pas à Morée. On n'investit pas parce qu'on est bloqué financièrement. On est bloqué parce qu'on ne sait pas aller chercher les subventions. On a le minimum du département.
Quelle mesure
on a
pour
le
ça
minimum.
Pour vous
mais recréer un partenariat avec les institutions.
Aller chercher de l'argent ailleurs, c'est ça.
Exactement. Et avec les parlementaires. On ne peut pas s'isoler des partenaires, que ce soit le département, la région ou les parlementaires, en passant son temps à les critiquer et après aller chercher auprès d'eux des appuis financiers. Aujourd'hui, l'actuel maire de Morée s'est lancé dans une campagne sans vergogne contre le député de Morée.
Député de Morée, il est député de la 3e circonscription.
Donc il est député de Morée.
Oui, mais il n'est pas que député de Morée.
Il est député d'une circonscription qui comprend Morée. Quand il est à Morée pour les dossiers de Morée, il est député de Morée. Oui. C'est une conception qu'on peut avoir de son mandat.
On ne joue pas sur les mots.
Voilà.
On a bien compris de qui s'agissait.
Quand on n'est pas capable de discuter avec le député de Morée, l'ancien député de Morée qui est encore député, le sénateur présent dans le sud de Seine-et-Marne, on n'est pas en capacité d'avoir des relais pour appuyer les dossiers et aller chercher des subventions. Et on voit que les impôts sont très élevés, l'endettement est très élevé, heureusement les dotations de l'État sont plus élevées que celles pour la moyenne des villes de cette même strate, et on voit que les subventions, elles, ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Alors, sur le comment faire.
Oui, mais je voudrais quand même répondre sur le budget.
Oui.
Parce que nous avons voté le budget hier, sans augmentation des impôts. Le budget fait 6 millions d'euros, il y a 2 500 000 d'investissements. Ça veut dire qu'il y a 40% d'investissement dans le budget. Est-ce qu'il y a beaucoup de villes de Seine-et-Marne qui ont un budget d'investissement qui correspond à 40% du budget? C'est comme ça depuis très longtemps.
Ne vous énervez pas.
Mais je ne m'énerve pas. Deuxièmement, aujourd'hui, nous terminons les contrats, un contrat régional et un contrat Contax, ce qui veut dire que toutes les opérations que j'ai énumérées tout à l'heure dans le bilan ont été subventionnées à hauteur de 60 à 70%. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été chercher les subventions. Au contraire, quand vous regardez le budget, vous voyez que, ce que je viens de dire, les subventions, c'est 50 à 60% de toutes les opérations. Autrement, bien évidemment, nous ne pourrions pas avoir 40% d'investissement.
Ça va être quoi ces investissements qui ont été votés dans le budget?
Non, là,
par exemple.
Pour cette année.
Oui, pour la suite.
Là, c'est
par exemple, rapidement.
Eh bien, donc, il va y avoir l'enfouissement des réseaux routes de Saint-Mamet.
Mm-hmm.
Il y a l'extension de l'école maternelle en centre de loisirs, contrat contact, subventionné à 70% par la région, l'État, le département et la CAF. Voilà, par exemple.
Par exemple, oui,
comme exemple.
Quelques exemples. Donc, c'est 40% d'investissement sur le budget.
Voilà, donc 40% d'investissement sur le budget. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes. Et ce n'est pas la première fois, puisque les contrats sont en route depuis maintenant 5 ans. Et vous prenez les budgets, depuis 5 ans, nous avons le même taux d'investissement.
Ouais, je trouve un peu dommage qu'on attende la 7e année pour dire on fait des investissements la 7e année et à faire adopter un budget 3 jours avant les élections. C'est-à-dire, quelque part, je trouve, à ne pas respecter le choix que peuvent faire les électeurs. Maintenant, vous dites que vous allez chercher beaucoup de subventions.
Alors, James,
je vois, excusez-moi,
rapidement pour les points, vos points ensuite.
Je vois sur un document du ministère des Finances, hein, les comptes des communes, que si l'on ajoute en produits de fonctionnement les impôts locaux et la dotation de l'État, on arrive pour la ville de Morat à 67%. C'est-à-dire que pour les autres financements, il ne nous en reste plus que 33%. Pour les villes de la même strate, les impôts et la dotation ne sont qu'à 55%. C'est-à-dire qu'on va chercher d'autres financements à hauteur de 45%.
Non, mais vous mélangez le fonctionnement et l'investissement. L'investissement n'est pas dans le financement. Les impôts sont dans les comptes de fonctionnement et non pas dans les comptes d'investissement. Vous êtes en train de mélanger tous les comptes, là.
Donc, on revient à vos propositions. James, on revient à vos propositions.
On peut bien lui dire ce que l'on veut pour expliquer qu'on a investi.
Vous l'avez expliqué. On revient à vos propositions. Ensuite.
Bon, donc premier changement sur le comment faire.
Voilà.
La proximité, le dynamisme et le partenariat, la concertation. Deuxième chose sur le quoi faire. Donc, quelques projets phares sur lesquels il faut agir et agir vite. Un, le parking de la gare, tout le monde l'attend depuis très longtemps.
On en parlera après.
Voilà, et ça va trop lentement. On en reparlera après si vous voulez. Deuxième chose qui me permet de balayer un champ très large, travailler à l'image de la ville. L'image de la ville, c'est la restauration évidemment du patrimoine, c'est des programmes d'animation et de culture, la culture de qualité. C'est le développement économique, le pôle des Renardières. On nous dit que tout est occupé, tout est fini, rien ne sort de terre, mis à part un gamme vert. Je pense que les fleuristes, les commerçants de Morée, de communes alentours, sont très contents. Je pense aux conditions d'accueil à la fois des Morétains et des visiteurs, le stationnement en centre-ville. Je pense par exemple à une opération d'amélioration de l'habitat. Voilà. Toutes ces mesures, petites ou grandes, qui permettront de rendre son attractivité à la ville de Morée. Morée, aujourd'hui, tout le monde nous dit que c'est une belle ville, mais qui ronronne. Eh bien, nous allons sortir la belle endormie de sa torpeur.
Voilà. Alors, voici une question d'administré. Écoutez, ça concerne justement le parking de la gare, qui est un gros dossier à Morée-sur-Loing.
Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai une question à poser aux deux candidats à la mairie de Morée. C'est quand est-ce qu'on aura un parking correct à la gare et surtout quand les trottoirs pourront être aménagés pour que les piétons puissent partir de la gare sans risquer de se faire écraser. Voilà, merci pour votre réponse.
On commence avec vous, le maire sortant, Patrick Septier. Ce parking de la gare, qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord, le parking de la gare, c'est pas de la compétence de la commune, hein, premièrement.
Et la voirie qui amène?
Non plus. D'abord, alors il est situé à Venot-les-Sablons, donc en ce qui concerne la voirie, c'est la seule responsabilité de la commune de Venot. C'est la commune de Venot qui est propriétaire, et c'est le maire de Venot qui a la police. D'accord ? Donc c'est clair. Donc dire que c'est le maire de Morée-sur-Loing qui empêche, enfin qui doit réglementer le stationnement à Venot-les-Sablons, je veux dire, toutes les personnes comprendront que déjà, il y a une certaine mauvaise foi dans cette affaire.
Est-ce que le maire en question a une oreille attentive par rapport à ça? Vous en discutez?
Oui. Alors, attendez, ça c'est le premier point. Deuxième point, sur le parking de la gare. Donc, il y a la compétence a été... L'aménagement du parking, c'est une compétence qui a été prise en 2002 par le syndicat des transports que je préside. Donc, depuis 2002, ce qui fait 5 ans. Hein, et non pas depuis 20 ans, comme je le vois dans certains tracts. Puisqu'avant, c'était de la responsabilité de l'État. Donc de nos députés, par exemple, c'était pas celle des élus locaux. Donc une étude a été tout de suite engagée pour savoir ce que nous pouvions faire. Des contacts ont été pris avec RFF, avec la SNCF, et il y a eu une première difficulté, c'était sur l'attribution des terrains. C'est-à-dire que vous savez que quand il y a eu la scission entre RFF et la SNCF, normalement il y a eu une répartition de patrimoine. Mmh. Et à Morée, ça n'a pas été fait, donc il a fallu qu'ils le fassent. Et pour ce faire, il a fallu que nous payions pour que savoir... entre RFF et SNCF, à qui appartenaient les terrains. Mm-hmm. Donc, je veux dire, c'était déjà un petit peu dur, puisque deux entreprises ne savaient pas de quoi elles étaient propriétaires, et c'est la collectivité qui a dû payer l'étude, premièrement. Et donc, ça a duré déjà un certain temps.
Ça veut dire quoi, un certain temps?
Ça a duré à peu près deux ans et demi. Voilà. Alors ensuite,
Ensuite, on a mis 2 ans et demi à décider effectivement de payer une étude.
Non.
7 370 euros.
Non. L'étude, elle a coûté à peu près 50 000 euros. Donc, il ne faut pas raconter n'importe
quoi. C'est pas les chiffres que la SNCF, communique.
Bah, peut-être. Mais la SNCF, elle ne communique pas sur les bons chiffres. Puisque nous, on sait ce que nous avons payé. Il suffit de regarder les délibérations du conseil communautaire, du conseil syndical. Ensuite, donc aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous en sommes à discuter sur les prix.
Du terrain ?
Les prix du terrain. Donc il a fallu faire une étude qui a coûté 7300 euros, celle-ci, pour que la SNCF et RFF réfléchissent si les terrains dont nous aurions besoin pour faire les parkings et la gare routière, elles n'en auraient pas besoin dans l'avenir. Donc c'est pareil, il a fallu que nous payions pour que les entreprises réfléchissent à leur stratégie. Et c'est vrai qu'elle a coûté en partie 7000 euros, celle-là. En partie, puisque l'autre côté a coûté 10 000 euros. Bien, nous en sommes ici. Nous sommes arrivés à la conclusion. Pour la gare routière, il faudrait acheter les terrains pour 1 800 000 euros. Et pour l'extension du parking, 30 000 euros, c'était une concession de 5 ans, 30 000 euros par an à payer. Donc nous étions, bien sûr, ni d'accord, ni sur l'un, ni sur l'autre, parce que 1 800 000 euros, je ne sais pas où on va les trouver. Et là, une concession de 5 ans pour faire un parking qui va coûter, je ne sais pas combien, 1 ou 2 millions d'euros, sur 5 ans, c'était bien évidemment pas concevable. Donc des discussions se sont engagées sur ces deux points. Un premier pas a été fait, puisque l'RFF a accepté de passer la concession de 5 à 15 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la partie parking, qui semble intéresser plus particulièrement votre auditeur, le problème est pratiquement réglé, puisque des contacts ont été pris avec la région, qui est prêt à engager
les
subventionnements pour la partie, je dis bien, la partie parking.
Si vous êtes élu, grosso modo, pour l'auditeur, vous lui répondez à quoi à cette question quand il vous dit dans combien de temps ?
Attendez, je répète que c'est pas le maire de la commune de Moret-sur-Loing qui peut décider, c'est un syndicat qui regroupe 16 communes.
Donc vous êtes président ?
Oui, et toutes les décisions sont prises à l'unanimité.
Unanimité, d'accord.
Donc je veux dire, ça veut dire qu'il y a quand même un consensus sur le dossier, et je veux dire, ça veut pas dire, et on ne peut pas comme ça changer tout. Donc la région s'est engagée à instruire le dossier parking extrêmement rapidement, donc voilà. Par contre, nous attendons une autre proposition pour la gare routière, parce que 1 800 000 euros, il est hors de question que les communes financent 1 800 000 euros. Donc on peut penser que la parking, je dis bien parking, c'est-à-dire côté Moret, puisse se débloquer relativement rapidement.
Alors, James Chéron, maintenant pour la liste rupture-ouverture et rassemblement à Moret-sur-Loing. Votre proposition pour l'auditeur sur ce parking et sur ce problème de la gare.
Il y a au moins un point où je pense que tout le monde est d'accord, que ce soit d'ailleurs sur la commune de Moret, le commune alentour, et pour tous les utilisateurs, c'est l'urgence à faire aboutir ce projet de parking, doublé d'ailleurs d'un projet de gare routière. Maintenant, il ne faut pas non plus fuir ses responsabilités. Pour ce qui est, c'est la première partie de la question de l'auditeur, pour ce qui est de l'accessibilité piétonne de la gare. Évidemment, la rue est située sur la commune de Veneux-les-Sablons. Il n'empêche que quand on est maire de Moret-sur-Loing, quand on est président de la communauté de communes, avec en vice-président le maire de Veneux, quand on est président du syndicat des transports de la région de Moret, avec en premier vice-président le maire de Veneux-les-Sablons, on est, je pense, en capacité de pouvoir discuter avec le maire de Veneux-les-Sablons compétent pour l'accessibilité piétonne de la gare. Donc, à un moment, il ne faut pas non plus se défausser complètement ses responsabilités. On peut aller essayer de discuter avec le voisin et lui dire « on a un souci sur ces trottoirs. Use de ton pouvoir de police, fais respecter les règles. » Pour le parking de la gare.
Votre proposition.
La proposition, c'est d'essayer de faire avancer les choses un peu plus vite. Je suis un peu stupéfait que le rendu d'un rapport à l'automne dernier, qui devait provoquer une réunion dans la foulée, dans les 10 jours, dans les 15 jours qui suivaient, n'ai vu la réunion se dérouler que 4 mois après. Pourquoi 4 mois ? Pourquoi on a perdu 4 mois ? On en est à peine à l'avant-projet. Il nous faut un avant-projet détaillé ensuite, il faut un appel d'offres. Alors, si on perd le temps dans la même proportion à chacune des étapes, c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans qu'on va avoir le parking, c'est encore dans 10 ans.
À quoi vous pouvez vous engager à l'instant T en ce qui concerne si vous êtes élu ? La fameuse phrase « si je suis élu, voilà ce que je fais ».
À faire bouger les choses plus vite. On n'est pas obligé d'attendre.
Par quel moyen ?
On n'est pas, mais par du bon sens, tout simplement. Voilà. Vous avez une réunion organisée, vous l'organisez dans la semaine ou dans les 10 jours qui viennent, au premier moment où les différents interlocuteurs peuvent se retrouver. Vous n'attendez pas 4 mois pour réunir ces personnes. Voilà. Si vous gagnez 4 mois sur une réunion, 6 mois sur une autre, 1 an sur une autre, vous aurez un parking qui viendra plus rapidement.
Alors, on enchaîne à présent avec la question, et la fameuse question, quel est votre premier chantier, votre première priorité, si vous êtes élu maire? On commence avec vous, monsieur le maire. Si vous êtes réélu, la première mesure que vous allez prendre, qu'est-ce que ça va être? Et en dehors de « je vais continuer ce qui a été fait », je parle de mesures concrètes.
Les mesures concrètes, le budget a été voté hier, donc il y a le budget qui va se faire.
Alors ce sera quoi? Qu'est-ce que vont voir sortir de terre les habitants de Moret?
L'enfouissement des réseaux de la route de Saint-Mamet, c'est la partie la plus importante. Les travaux de restauration de l'église, puisque le programme se poursuit. Il faut savoir que la restauration de l'église coûte quand même 550 000 euros, financée à 50%. Financée à 50% par la commune. Donc c'est quand même 225 000 euros. Quand on dit qu'on n'investit pas 225 000 euros sur l'église, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même qu'une commune de 4500 habitants et que nous avons le potentiel fiscal le plus faible du canton. Donc c'est quand même des notions qu'il faut avoir en tête. Voilà, il y a l'escalier du donjon, comme je vous l'ai dit, qui était prévu, la fin du centre de loisirs, les travaux du centre de loisirs, donc qui pourra accueillir les enfants de 3 à 6 ans à partir de l'été, et l'extension de l'école maternelle qui est en cours. Voilà, donc dans un premier temps, c'est terminé les premiers chantiers en cours, et puis ça va être après de mettre en place le programme que l'on a développé en fonction, bien sûr, des budgets.
D'accord. Voilà donc pour Patrick Sépier, maire sortant, liste Moret d'abord. La liste rupture, ouverture, rassemblement à Moret, James Chéron, quelle est votre première mesure si vous êtes élu maire dimanche, puisque je rappelle qu'il n'y aura qu'un tour à Moret-sur-Loing.
Absolument.
Donc,
alors,
allez voter.
La première mesure sera une mesure de sagesse. Avant d'entamer tout chantier, toute nouvelle dépense, nous ferons faire une analyse de la situation financière de la commune. Si nous sommes élus, nous serons des nouveaux élus. De façon objective, nous demanderons à un cabinet extérieur de faire une analyse de la santé financière de la commune. Je n'ai pas de polémique à faire là-dessus. Je suis juste un peu inquiet quand je vois comment les mêmes personnes, sur d'autres structures, on arrive à des mesures de gestion absolument anarchiques. Je pense à l'Office du tourisme, je pense aux amis d'Alfred Sisley, à toutes ces structures où on retrouve des élus à la tête et qui sont très mal gérées.
Voilà. Donc,
j'ai peur de trouver la même chose à la mairie, donc première mesure, une mesure de sagesse.
Alors qu'est-ce que vont voir les gens sortir de terre? Sur votre première, quel est votre premier gros projet que vous ne pourrez pas mettre en route maintenant parce que le budget 2008 est voté? Quel va être votre premier chantier, mis à part cette analyse financière,
Le budget 2008, on peut le revoir. Il y a évidemment des choses qui sont entérinées. Je pense notamment aux subventions aux associations. Et c'est peut-être pas innocent qu'on ait voulu faire passer le budget 2 jours ou 3 jours avant le scrutin. C'est de la démagogie électoraliste. Le premier chantier que nous mettrons en œuvre, ce sera certainement celui pour le parking à la gare, parce que ça touche tous les Moretins. La population des Moretins change, elle évolue. On a aujourd'hui à Moret un tiers de la population qui n'habitait pas à Moret au XXe siècle. Ce ne sont pas des personnes retraitées pour la plupart d'entre elles, ce sont des personnes qui vont travailler, qui le matin se lèvent, vont prendre le train à la gare, vont travailler à Paris et reviennent le soir. Ces personnes-là utilise la gare tous les jours. Notre première mission, ce sera d'améliorer leurs conditions de vie. La crèche et le stationnement. Voilà.
D'accord. On va terminer avec les deux petites questions, les deux petites questions méchantes qu'on vous a concoctées ensuite, et on passera au petit quiz Moret-sur-Loing. On commence avec Patrick Sépier. Est-il exact, Patrick Sépier, que votre liste de rassemblement et quelques-uns de vos colistiers ont, je dirais, peut-être pas empêché, mais agi pour qu'il n'y ait pas de liste du PS à Moret-sur-Loing? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce qu'on a entendu quand on est allé se renseigner un petit peu. Grosso modo, il y a une alliance, il y a une liste de rassemblement, il y allait avoir une liste PS qui allait venir. On a fait en sorte qu'elle ne vienne pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que vous voulez rassembler tout le monde? Est-ce que c'est une manipulation? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens?
Si le PS avait voulu faire une liste, il aurait fait une liste. Je vois pas en quoi j'aurais pu l'empêcher de faire une liste.
Donc, en appelant des gens socialistes dans votre liste qui auraient eu un certain nombre
Non, j'ai appelé personne. Tout le monde s'est retrouvé sur un projet par rapport à un parachutage dans la commune, par rapport à la venue du directeur de cabinet d'Yves Jégot, par rapport à la mise en place d'un candidat UMP. Donc voilà, il y a eu une discussion et qui était engagée d'ailleurs assez tard avec des représentants du conseil municipal qui étaient des sensibilités de gauche.
Donc vous n'avez pas négocié à aucun moment avec le Parti socialiste au niveau départemental.
Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Alors je peux vous dire qu'il y a eu absolument aucune négociation d'appareil à appareil. C'est simplement le rassemblement de Moretin qui veulent agir pour l'intérêt général. Et comme je vous le disais en introduction, 95% des décisions du Conseil ont été prises à l'unanimité, intégrant donc ces personnes qui aujourd'hui, de sensibilité de gauche, qui aujourd'hui intègrent la liste. Donc ça me paraît tout à fait normal que des gens qui viennent pour l'intérêt de Moret, pour Moret d'abord, puissent participer de façon importante à la gestion de la cité. Mais en tous les cas, il n'y a jamais eu d'accord et de discussion avec qui que ce soit, avec aucun appareil politique.
Je rappelle que vous êtes toujours responsable départemental du MoDem, ça on peut le rappeler.
Ça on peut le rappeler, mais je veux dire, un investissement individuel n'a rien à voir avec l'investissement sur la commune, puisque les fois précédentes j'étais président de l'UDF et la liste n'avait pas l'investiture UDF non plus, j'ai jamais demandé d'investiture pour la commune. Voilà, donc c'est une liste de rassemblement dans laquelle il y a des UMP, dans laquelle il y a bien sûr des MoDem, il doit y avoir un ou deux PS, un vert, et tous les autres sont des Moretins qui veulent s'investir pour leur ville.
On arrive maintenant à la liste de James Chéron. Ce qui revient, et le maire sortant vient de le dire, ce qui revient un petit peu dans la tête des Moretins qui discutent un petit peu avec nous, c'est la légitimité, le parachutage. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ce parachutage dans la ville de Moret-sur-Loing?
Je ne crois pas qu'on puisse parler de parachutage.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut parler de parachutage?
J'habite à Moret, j'ai la chance de travailler à 10
km. Habitez à Moret depuis le mois de novembre, hein, donc c'est pas non plus une ancienneté extrêmement importante. Alors bien évidemment, tout le monde peut se présenter.
C'est ce que j'allais dire,
habiter à Moret en novembre pour être inscrit sur les listes électorales en décembre et se présenter en décembre, pour moi c'est du parachutage.
Je n'ai jamais été inscrit sur les listes électorales comme tant que votre numéro 2 de liste. Bon, là, ça vous dérange moins. J'habite à Moret. Ça fait pas 20 ans que j'habite à Moret. Je ne suis pas né à Moret. Est-ce que pour autant je dois être un demi-morétain ou un demi-citoyen? Est-ce que c'est une tare de travailler? Est-ce que c'est une tare de travailler à 10 km de chez soi ou 12 km de chez soi? Est-ce que c'est une tare de travailler aux côtés d'Yves Jégot, qui est un maire? Nous sommes ici abrités dans vos locaux à Surville, donc à Montreux. Est-ce que c'est une tare de travailler aux côtés d'un maire qui réussit? Ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer que on peut prendre peut-être en exemple ce qui se passe à côté et qu'on a à Moret à traiter des problèmes certainement moins compliqués que ceux auxquels Yves Jégot a eu à faire face lorsqu'il est arrivé à la mairie de Montreux, et que si l'on arrivait avec... Alors Yves Jégot est très énergique, mais avec peut-être 80% de l'énergie d'Yves Jégot à réaliser 50% de ce qu'il a fait à Montreux, mais mon Dieu, à Moret, nous vivrions dans un paradis, voilà. Donc le parachutage, je crois que c'est le seul argument que l'équipe en place a réussi à trouver pour contrecarrer la candidature, non pas de James Chéron, mais de l'équipe qu'il y a avec James Chéron, puisqu'on a l'impression que je suis seul candidat. Nous sommes 27 candidats, avec dans mon équipe des gens qui habitent tous les quartiers, qui sont à Moret depuis certains quelques années, d'autres depuis plusieurs générations. Voilà, nous sommes une équipe équilibrée et cohérente, au sein de laquelle il n'y a ni tension ni ambition personnelle. Une équipe qui s'est réunie autour d'un projet et non pas contre le projet ou l'équipe ou la tête de liste adverse. Une équipe qui n'avance pas masquée, parce qu'aujourd'hui, le candidat de tête de liste explique qu'il ne fait pas de politique, il n'a pas d'étiquette politique derrière sa liste, et puis on voit la même personne parlant en tant que responsable départemental du MoDem, expliquer dans un journal, un article paru hier je crois, que le MoDem veut absolument conserver les deux villes dont Moret-sur-Loing, à la tête desquelles il y a un maire. Donc le responsable départemental du MoDem veut conserver la ville au MoDem, mais le candidat explique que le MoDem n'interfère pas du tout dans la campagne.
Alors on conclura avec ça. Monsieur Septier, vous avez quelque chose à y répondre, ou on passe directement au quiz Moret-sur-Loing? Est-il vrai qu'il y a eu un article qui est paru hier, que vous avez dit que le MoDem devait conserver Moret? Voilà, c'est ça qu'on se pose comme question.
Vous savez, les journalistes, vous êtes bien placés pour le savoir.
C'est gentil.
Les journalistes font leur métier.
Donc, bien évidemment. Et je vous remercie tout à l'heure d'avoir bien précisé que c'était pas une liste MoDem, puisque, comme je vous l'ai dit...
Voilà, je voulais la précision, vous voyez, comme
j'ai fait. Bah oui, mais ça me paraît tout à fait cohérent et logique, Et les journalistes, d'habitude, ne font pas comme ça. Et j'ai vu dans certains journaux que je conduisais une liste modem. J'ai essayé de rectifier plusieurs fois, et c'est pas vrai, puisque, comme
voilà
je l'ai dit tout à l'heure, c'est une liste extrêmement diversifiée, et on parle pas de modem. Et d'ailleurs, gérer une ville à la façon modem, UMP, PS ou vert, moi je crois qu'il faut gérer la ville parce qu'on l'aime, parce qu'on y est attaché, parce qu'on connaît bien ses habitants et qu'on veut l'intérêt général. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus important.
Je crois que nous la gérerons très bien alors.
Eh ben, nous verrons ça dimanche soir pour ce premier tour des élections municipales. On vous pose trois petites questions maintenant sur Moret. Question facile, question un petit peu plus dure. On commence, vous répondez chacun votre tour. Monsieur le maire, quel célèbre festival se tient chaque année dans la ville de Moret-sur-Loing? Quel thème?
Il y en a plusieurs.
On va dire le plus connu.
Il y a un festival sans lumière, il y a le festival de la BD, il y a la BD Maniale, il y a le festival de l'humour.
Voilà, voilà.
Il y avait un festival sans lumière.
Non, il y a encore.
Un festival de théâtre qui rassemble 100 personnes. Quand il y a quelques années encore, il y en avait 2000.
James Chiron, le festival le plus important de Moret-sur-Loing, selon vous, lequel?
Selon moi, il devrait être le festival sans lumière, effectivement.
D'accord. Deuxième question. Alors, quelles sont les trois portes historiques de Moret-sur-Loing? Deux existent encore, une troisième, il n'y a plus aucune trace. James Chéron, les trois portes de Moret-sur-Loing. Là, on parle d'histoire, attention.
On parle d'histoire. Alors, évidemment, la porte de Bourgogne et la porte de Samoa, à côté de laquelle j'habite.
Voilà. La troisième, c'est la colle.
Eh bien, la troisième, c'est la colle, et je suis trop jeune, je pense, pour l'avoir connue.
Monsieur le maire, la troisième porte?
C'est la porte de Grès.
Voilà, la porte de Grès, effectivement, vers la forteresse de Grès, dont il n'y a plus aucun vestige aujourd'hui. Et puis on termine avec vous, monsieur le maire, vous répondrez également, James Chéron. Selon la mairie, combien y a-t-il d'associations recensées dans la ville de Moret-sur-Loing?
Quarantaine d'associations.
Quarantaine?
Oui.
Quarantaine?
Une grosse quarantaine.
Eh bien, sur le site, 35. Bon, ouais.
Nous sommes à une grosse quarantaine avec celles qui ne sont pas mentionnées sur le site.
Match nul sur le quiz Moret-sur-Loing. Messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle donc que Patrick Septier, maire sortant, emmène la liste Moret d'abord et que la liste rupture, ouverture et rassemblement à Moret-sur-Loing est emmenée par James Chéron, habitant de Moret-sur-Loing. Je vous rappelle qu'il n'y aura qu'un tour dimanche. On saura dimanche soir qui est le nouveau maire de Moret-sur-Loing. Messieurs, merci. Je vous souhaite une bonne fin de campagne.
Merci à vous.
Un bon courage pour ce premier tour.
Merci.
On se retrouve dimanche 19h pour une émission spéciale consacrée à ce premier tour des élections municipales avec les résultats de toutes les communes, bien sûr, avant tout le monde. Je vous laisse avec Camille et on se retrouve dimanche.